Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Loïc Toularastel, comédien, chanteur, marionnettiste, et puis un peu touche-à-tout, saltimbanque, quoi. Voilà. La rencontre avec l'orgue. Ça part du chant, en fait. La rencontre avec l'orgue. Moi, j'ai appris toutes les chansons dans le ventre de ma mère, parce que ma mère est une chanteuse, enfin, pas professionnelle, mais c'est quelqu'un qui chante énormément. À un moment, à l'île Tudy, où est né mon père, ils organisent un festival d'orgue mécanique, parce qu'il y a un monsieur à Combrite qui a un musée de l'orgue mécanique, qui avait un musée de l'orgue mécanique, Monsieur Dussourd. Il était brocanteur et une collection d'orgue des Limonaires et d'orgue de Barbarie. Sa fille décide donc, avec le comité des fêtes de l'étudie, d'organiser ce premier festival de musique mécanique. Et là, moi, je tombe en... Oh, mais vraiment, en émoi, j'ai vraiment une grande émotion de voir ces chanteurs de rue. Pour moi, ça représente toute une époque, ça représente tout un monde et tout ça. Je me suis dit, mais moi, je fais partie de ça, en fait. J'ai 30 ans. Tu vois, j'ai à peu près 30 ans quand ça, la première... Et je découvre ça. Et là, je me dis, mais il m'en faut un. Il faut absolument que je trouve un orgue de Barbarie, parce que moi, j'adore chanter. Et je me mets en recherche. Je vais donc voir Monsieur Dussourd. Et je lui dis, il me faut un orgue. Est-ce que vous avez des adresses où je peux m'en procurer un? Est-ce que vous savez si on peut en avoir d'occasion? Il me dit, mais il a même un petit accent. Ça n'existe pas. Alors, je dis, bon, je vous laisse mon adresse. On ne sait jamais mon numéro de téléphone. Donc il n'y a pas Internet à cette époque-là, on n'a pas de portable, rien du tout. Et il m'appelle 15 jours après. Il me dit, mais dites donc vous avez de l'intuition. Vous deviez sûrement savoir qu'il y en avait un sûrement à vendre quelque part. Il y en a un à vendre à Lesneva, je viens d'avoir un coup de fil. Filet, c'est un orgue magnifique, c'est des orgues Hermant, c'est des orgues suisses faits par un luthier. Et ce monsieur Hermant, je l'avais rencontré à l'étudie au festival. Il venait en plus exposer tout ça. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est la chance de ma vie, quoi. J'y vais, je passe à la banque et je prends tout mon argent liquide que j'avais en économie. J'avais plus rien, après j'avais plus une thune. Et je me dis, bon, peut-être qu'un chèque, il voudra prendre, il coûtait 27 000 francs. Donc ce qui est pas mal quand même à l'époque, tu vois. Donc moi, je pars avec 20 000 balles en liquide et je me dis, bah, s'il veut un peu plus, je lui ferai un chèque. J'y vais et je lui dis ça, bon, moi j'ai du liquide, je vous paye 20 000, il lui manquait quand même 7 000 francs, c'était énorme. Et il me dit, ok, c'est bon, vous me faites un chèque pour les cartons, mais je l'encaisserai plus tard. Je dis, d'accord. Et voilà, j'ai eu mon orgue à Lesneva. J'arrive à la maison, je le tourne. Parce que je n'ai même pas essayé, hein, à Lesneva. Il me dit, voilà, c'est ça et tout. Et puis, je ne connaissais rien. J'arrive à la maison et je tourne. Et il était totalement désaccordé. Je dis, ça y est, j'ai craqué tout mon argent. J'ai dépensé toutes mes économies. Et je n'ai plus une thune. Et j'ai acheté quelque chose qui est pas en bon état. Je ne sais pas comment ça se fait. Sur les cartons que j'avais achetés, il y avait un numéro de téléphone. Je dis, ben, je vais appeler. On ne sait jamais. Et puis, peut-être que quelqu'un va me renseigner. Et je tombe sur un vieux monsieur avec l'accent de Toulouse, monsieur Boyadjoglou. Oh, mais ne vous inquiétez pas, il est désaccordé, votre orgue, je connais bien ce genre d'orgue et tout ça. Je vais vous envoyer par la poste un carton d'accord, et puis vous allez acheter un accordeur chromatique. Donc j'achète l'accordeur chromatique, je reçois le carton par la poste, et j'accorde mon orgue, et ça marchait super bien, quoi. Et alors là, je dis, ça y est, miracle. Et là, on est en 1993, parce que on est au mois de mai 93. Mon fils va naître quelques temps après. Donc, il y a 30 ans de ça, à peu près, quoi, tu vois. On pourrait imaginer Alexia, je ne sais pas, une émission de radio, une rencontre. On pourrait imaginer...
imaginer, on se soit rencontrés lors d'un proctus, et un jour on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une rencontre autour de l'orgue, autour... qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
93, je me mets à apprendre à tourner avec et à poser ma voix au-dessus de l'orgue parce que ça a un volume de son. Alors maintenant j'ai deux orgues, il y a le petit orgue que tu connais, le petit Jules, et j'ai un orgue à flûte. Et l'orgue à flûte, ça a un son merveilleux, mais il faut pouvoir chanter dessus, donc je fais un travail vocal. Je commence à bosser sur ma voix pour dépasser, pour que ma voix puisse aller au-delà de l'orgue. Donc je passe 3 ans quand même dans mon atelier, et je bosse, j'achète des cartons, je trouve des noteurs de cartons. Ah oui, à Paris, je rencontre un gars qui s'appelle Antoine Bitran, avec qui je bosse depuis tout ce temps-là, et j'investis. J'investis parce qu'un orgue, bon, ça coûte tant, mais un carton, maintenant je te donne le prix en euros, c'est entre 50 et 80 euros quand même, tu vois. Donc j'en achète petit à petit, et je commence à me faire mon répertoire. Mais je ne sors pas avant 3 ans de travail. Et 96, première sortie. Et je trouve le nom de l'orgue parce qu'on fait une sortie avec les orgues de Morlaix, mes copains de Morlaix. Donc, et là, je trouve le nom Sucre d'orgue parce que mon pote me dit « Comment tu vas t'appeler ?» Je dis bah, « J'en sais rien, t'as qu'à appeler ça Sucre d'orgue. » Et pof, et c'est parti comme ça. En parallèle, j'avais ma compagnie de théâtre de marionnettes qui tournait bien déjà. Et j'avais vraiment envie de développer tout ce qui est chant. Donc, je m'associe avec un contrebassiste et on lance une petite formule, un petit duo, contrebasse, orgue de Barbarie, chant à deux voix, qui s'appelait la Guinguette à Neuneux. Et ça tournait pas mal jusqu'aux années 2000. Tu vois, 2000, 2001, à peu près, un truc comme ça.
Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'écho répète cet air joyeux. Et la radio chante un petit air radieux.
Et là, c'était bien, on faisait des festivals et tout. Tu vois, c'était très original, très, très original. Il y avait un nouveau son, on voulait l'amener un peu ailleurs, tu vois, sur ce côté un peu rengaine, un peu passéiste aussi, quelque part. Tu vois, nous, on avait envie de moderniser tout ça en rajoutant la contrebasse et les deux voix, surtout, le contre-chant et tout. Donc, ça m'a fait bosser parce que, tu sais, l'orgue de Barbarie, ça, c'est un mouvement circulaire. Et pour avoir le tempo et vraiment suivre un tempo avec un mouvement circulaire, c'est pas évident. Jacques arrive avec sa contrebasse et me dit « Hop là, il va falloir apprendre à, tu vois, à être dans le temps et puis être ensemble. » Oh, wow, on a bossé, et puis on y est arrivé. Tu vois. Donc c'est là que j'ai appris à chanter en duo. Tu vois, et pouvoir travailler avec quelqu'un qui bosse avec moi. En 2001, Michel arrive en ayant ce désir de jouer de l'orgue de Barbarie dans la rue en chantant voix lyrique. Et elle me dit, mais pourquoi on ne ferait pas un spectacle ensemble? Et là démarre une autre association, parce qu'avec Jacques c'est terminé, il part sur d'autres aventures lui, donc ça me permet de retrouver le duo aussi, tu vois. Là, on commence à écrire des spectacles, on commence à travailler sur un autre répertoire aussi, tu vois, parce que Michel, avec sa voix lyrique, a permis autre chose. Ça nous amène au Festival de Quintin, quand même, où on a la Palme d'Or du festival, en 2009, ouais, parce que on a à nouveau, avec Michel, on a envie, par les costumes, par le choix du répertoire comique, par l'interactivité avec le public, par notre pétillance, j'allais dire si ça existe comme mot, notre côté pétillant, quoi, tu vois, on amène l'orgue de Barbarie ailleurs.
D'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Oh, mes femmes sont... cette fille qui danse à midi. Si c'est un jour pareil, une fleur à nos yeux, à l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux, l'appelle l'amour, le mendiant, la charité, le soleil, la paix, le jour.
Alors, tu vois, dans le costume, quand tu vas dans des festivals d'orgue de barbarie, tu as toujours ce... Je dénigre pas, hein. Mais les gens sont restés dans une certaine dans une certaine façon de chanter, dans une espèce de guaille, tu vois, qui au bout d'un moment peut être un peu rengaine, un peu, tu vois, un peu passéiste, un peu dans le costume. On remet toujours ça dans les années 1900 et tout. Et nous, on a envie d'y mettre une modernité, hein, tu vois, et de dire ça peut être aussi un instrument avec lequel on peut faire des choses. Tu vois, par le choix du répertoire, d'avoir des chansons un peu plus modernes aussi. Tu vois, de ne pas rester que sur Mon amant de Saint-Jean, sur C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Tu vois, qu'on adore. Hein. J'adore les chansons de mes premières, les plus vieilles chansons que j'ai, c'est du gris. Mais j'adore ces chansons-là. Mais j'aime bien les chanter dans les maisons de retraite, par exemple. Tu vois, parce que. Tout d'un coup, tu réveilles des souvenirs, tu réveilles des vieilles mémoires et tout ça, et ça, c'est fabuleux. Donc, je les ai avec moi, je les chante de temps en temps. Mais j'aime bien aussi amener l'orgue ailleurs. Tu vois, ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc, ça nous a permis de faire plein de choses, de créer des spectacles. Notre premier spectacle, c'est sur le Front populaire, où on raconte le 36, les grèves. Je joue le rôle d'un personnage qui est devant une usine en grève avec son neveu Mimile. Et voilà, on fait chanter les gens, le public, c'est les grévistes évidemment, tu vois. Et arrive une diva, Michel Porcher, qui arrive et ça amène une autre conscience. Elle vient, elle, d'Allemagne. Donc on est en 36, on est juste sur la montée du nazisme et tout ça. Et moi, ça m'amène aussi une conscience un peu politique dans ce qu'on est en train de faire, de défendre un peu... Il y a quelque chose en moi qui a besoin de ça, de dire tiens, on va écrire des choses qui ont du sens, écrire des spectacles où on va dire des choses importantes, deux, l'engagement des artistes. Donc c'est pas rien, tu vois, de se dire on a un métier important, donc on a aussi un métier où on peut dire des choses, donc tu vois ça, et puis embarquer les gens avec nous, quoi. Ça a été pour moi c'est des belles c'est un beau métier. Tout d'un coup je me dis ah ouais, là on peut voir ça différemment, tu vois. Que bon, moi je viens de la marionnette là, que je suis en train de quitter petit à petit, tu vois. J'ai une compagnie de marionnettes jusqu'en 99 2000, tu vois. Et puis et là ça vient aussi de moi, de ma façon d'être. Moi j'étais très timide, donc je commence à sortir du Castelet un peu, tu vois, tout doucement. Donc, je suis vu dans la rue, je m'expose un peu. Et puis, il y a un côté, tu sais, le côté complètement inconscient, où tu fais des choses totalement dans l'inconscience. Tu es dans la rue, tu chantes et tout ça, mais tu crées quelque chose, évidemment, tu crées la rencontre. Puis l'arrivée de Michel, ça ouvre d'autres champs des possibles, quand même, tu vois. Donc, on a ce premier spectacle ensemble. On a envie de faire aussi, on a fait des chansons autour de l'amour coquin. Parce que dans les chansons... Il y a tout un volet de chansons qui est intéressant. C'est les chansons comiques et coquines des années 20 et des années, tu vois, après. Bon, ça, on adore. On a fait tout un répertoire là-dessus. Pas pour terminer, mais un nouveau projet qui s'est mis en place. Je fais court, hein, parce que si on s'appelle, on peut partir dans plein de directions. Là, avec Jérôme, le copain avec qui on avait monté justement la folle journée du juin 36, le spectacle sur le Front populaire, qui joue Mimile, Jérôme, on lui offre un orgue pour ses 40 ans, avec plusieurs potes. Lui, il a 20 ans de moins que moi. Il va lancer son répertoire aussi et acheter ses chansons. Et on va voir ce que ça va donner. Et il achète des trucs que j'aurais jamais pu acheter. Bohemian Rhapsody, il achète du Sting. Et on se dit, waouh, c'est un répertoire qui peut se croiser. Donc, nous, on fait encore notre vieux répertoire avec des petites nouveautés quand même. Puis lui, il joue ça et on se fait une battle en habillant boxeur et tout, tu vois. Et on réinvente encore à nouveau une autre forme de Est-ce qu'on peut jouer du rock? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut amener le public ailleurs dans une rencontre d'Orgue de Barbarie, tu vois? Et quitter ce côté un peu plan-plan, un peu... Bon, j'ai l'impression de juger quand je fais ça, mais ça, c'est intéressant de l'avoir, le côté ancien de l'orgue, avec les cartons et tout ça, les vieux cartons. Mais qu'est-ce que c'est bon de réinventer à chaque fois, quoi, tu vois? Le petit Jules. Il adore le petit Jules, l'oiseau.
C'est vrai?
Ouais. Quand on vient répéter là, il adore ça. Alors... Tu commandes en plus à l'oreille, tu regardes si c'est dans ta tonalité, parce qu'un carton a une tonalité. Alors, avec le nouvel orgue, le petit Jules, l'orgue à hanches, on a la possibilité de changer. On joue sur 3 tonalités. Et donc, déjà sur l'internet, tu écoutes, tu essayes de changer. Et puis, tu te projettes déjà, tu commandes, tu payes, et arrive le colis. Comme si c'était Noël. Tu vois, tu ouvres le colis, t'es là. Et t'essayes. Il y a de la projection, il y a de l'imaginaire, puis là, c'est la réalité. Waouh, c'est trop bien. Maintenant, je ne commande plus beaucoup parce que j'ai pas mal de cartons, quand même. J'en ai pas loin de 200, 250, tu vois. Donc, j'en achète que par projet précis. Voilà, il faut une chanson, il faut telle et telle chanson.
Voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour.
Tu parlais de l'orgue tout à l'heure, t'as toujours celui que tu as eu en premier?
Oui, j'ai toujours l'orgue à flûte, bien sûr. Dans une des chansons, chanson que j'aime beaucoup, c'est La plus batte des Java. Donc, le grand Julot et Nana, sur un air de Java, se connurent au bal musette sur un air de Javette. Elle lui dit « J'ai le béguin sur un air de Java ». Il répondit « Tant mieux, sur un air déjà vieux ». Georgius. C'est extraordinaire, Georgius, parce que c'est toute une époque, tu vois, avec des jeux de mots et tout. Et donc, j'avais appelé mon orgue le grand Julot. Et comme l'autre est plus petit, bah, le petit Jules, quoi. Tu vois, voilà.
Dis, quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avant Paris.
Comment on devient qui je suis? Alors, qui je suis déjà, Madoué? Alors, c'est les rencontres, déjà. C'est une conscience. La conscience du partage. L'amour du public. L'amour des gens. L'amour des personnes âgées. Ça, c'est un truc que j'ai depuis... j'ai eu la chance d'être facteur dans ma vie. À l'île Tudy, t'imagines? J'ai 18 ans. Je commence à 16 ans même, je fais les télégraphes à 16 ans, et à 18 ans, je passe facteur. L'été, je suis en doublon avec la factrice, tu vois, parce qu'en l'été, il y a beaucoup plus de monde. Donc j'ai ce job-là. Et j'ai tissé des liens avec les personnages, et j'adorais passer du temps, mais ma tournée, moi, durait des heures et des heures. Je m'installais, tu prendras bien un café, tiens, mange un petit bout de chocolat et tout ça, tu vois. Et ça a été une rencontre, mais avec les personnages, c'était un truc... Il y a un déclic, quoi, tu vois, qui se fait. Et quand j'ai l'orgue, je me dis, mais moi, je vais aller chanter dans les maisons de retraite. J'aime la rencontre, avant toute chose, tu vois, de provoquer quelque chose chez les gens, et en moi aussi, en même temps, tu vois. Et vraiment, et ça vient de là, en fait. Je suis comme ça, parce que ça, c'est comme ça. C'est comme, les choses se sont passées comme ça, tu vois.
Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'écho répète cet air joyeux. Et la radio chante un petit air radieux.
Je vais te raconter une histoire. Un jour, je vais chanter à Beauhard dans une maison de retraite. J'ai plus de voix. Mais plus rien du tout. J'avais qu'un petit filet de voix comme ça, tu vois. Je m'excuse au départ. Je leur dis, mais je ne sais pas comment je vais faire. Et les gens étaient assis en arc de cercle. J'étais un peu au milieu, quoi. Et puis j'y vais quand même, tu vois. Mais vraiment, c'est des personnes âgées très, très fatiguées, tu vois, avec la tête baissée et tout. Et c'était même endormi et tout. J'ai dit, oh! Tout Tout d'un coup, les têtes se sont relevées. Et on a passé un moment comme si moi, j'avais lâché quelque chose, tu vois. J'ai choisi les chansons les plus douces que j'avais et j'y suis allé. Et la voix est revenue, tout doucement, tu vois. Et les têtes se sont levées. Oh, je suis sorti de là. Je me suis dit, waouh, mais quelle chance. Tu vois, quelle chance. Une fois, je vais chanter pour un accueil de jour à Plomelin. C'était à Plomelin, ouais. Une dame qui ne parlait plus depuis très longtemps. Donc, c'est un accueil de jour de personnes à Alzheimer. Et tout d'un coup, je chante Les Feuilles Mortes. Ah, je voudrais tant que tu te souviennes. Tu imagines un peu, que tu te souviennes. Et tout d'un coup, elle lève la tête, elle se lève et raconte sa vie. Elle raconte le chant de Mars, elle raconte l'orgue de Barbarie au chant de Mars, le chanteur, son mari, tout ça. Oh, tout le monde était là, waouh. C'est impressionnant, tout d'un coup, il y a dans cette maladie, effectivement, je trouve que tu as l'impression qu'il y a deux mondes, il y a le nôtre et puis le leur dans lequel ils sont, et ce moment de rencontre, encore, tu vois, avec grâce à la chanson. C'est impressionnant, hein. Et après, j'ai lu que, effectivement, la mémoire de la chanson, c'est une des mémoires qui reste.
Derrière les grilles, tout est gris, et je crie dans la nuit. Lorsqu'on m'enferme, l'enfer éterne, le paradis, c'est la folie. Et je t'écoise, je table rase, je tire un trait sur mon passé, je perds les pédale dans ce dédale, je perds mes pas dans ce fatras. Heureusement, il y a toi.
Heureusement, c'est le premier mot de un petit mot de Jeannette dans la maison de retraite. Je raconte cette histoire qui est une histoire vraie. Jeannette, elle vient toujours un petit peu avant. Quand je monte la chorale pendant 10 ans à la maison de retraite, tu vois, je travaille pendant 10 ans à la maison de retraite. Donc on a le temps de tisser des liens avec les personnes âgées. Et Jeannette, elle vient toujours un petit peu avant. Quand je m'installe, tu vois, je sais bien qu'elle a envie de qu'on cause. Je m'assois à côté d'elle, je lui prends la main, tu vois. Et un jour, elle me dit, heureusement, il y a toi. La chanson, heureusement, il y a toi, évidemment, c'est pour Jeannette, quoi. Et voilà, heureusement, c'est une chanson dédiée aussi à tous les soignants, tu vois, à tous les gens qui sont dans cette maison de retraite, les animateurs, qui sont payés, mais que dalle, tu vois, qui font un boulot de dingo. Même les soignants, les infirmiers, les gens qui sont dans des... Et je me dis, oui, effectivement, quand je l'ai écrit, j'ai pensé à tout ça. Jeannette, elle donne le titre, mais il y a tout ça derrière. Tu vois, tous ces gens-là qui sont tout près des autres. Et tout. Nous aussi, les artistes, tu vois, qui allons jouer là, dans les maisons de retraite. Souvent, on se dit, ah, la maison de retraite, ça va être triste, ça va être ceci, ça va être cela. Bon. J'ai fait des films, j'ai fait une chorale, on a fait des spectacles, on a fait énormément de choses.
Heureusement, il y a toi.
Moi, je crois que j'ai un boulot. Je dirais merci, hein, merci la vie, merci, voilà, merci la chance. Mais oui, parce que c'est des coups de bol, hein, tout ça. Mais j'ai envie de continuer, hein. J'ai envie de continuer. Je sais pas comment. Là, j'ai arrêté au mois d'octobre un spectacle à tourner. J'ai fait 550 dates avec, t'imagines un peu, tout seul, un solo, 550 dates. Doc Boutantrain, ça s'appelle. Je l'ai décidé de l'arrêter. Mais quand tu arrêtes ce genre de truc-là, il y a un vide qui se crée quand même, tu vois. Tu te dis, ah ouais, oui, parce qu'on a toujours envie dans ce métier-là. Moi, j'ai toujours envie de faire des choses. J'ai encore des envies de spectacle. J'ai encore des idées dans ma tête, tu vois. J'ai encore des trucs, je me dis, ah, t'as cette idée-là, il faut que tu la fasses, hein. Tu vois, bon, la retraite est arrivée, on a plus de temps, on ne court plus après les cachets, après le statut d'intermittent, tu vois. Donc, on est un peu ralenti, et il faut être ralenti, parce que 65 balais, t'es ralenti quand même. On a moins d'énergie, il y en a encore, mais voilà. Trouver l'équilibre, tu vois, ça c'est hyper important, de trouver cet équilibre-là, ne pas tout arrêter, surtout pas, parce que moi j'ai envie de faire plein de trucs.
Et quand reviendras-tu, au moins le sais-tu que tout le temps...
De chanter, c'est politique, tu vois, parce que quelque part, on met... voilà, on... on défend des idées. Bon, ça dépend du choix des chansons, ça peut être politique en choisissant les chansons, mais c'est un acte politique en allant chanter dans la rue et en prenant l'espace public, tu vois, de se dire, et d'amener des gens dans la rue, d'amener n'importe qui, d'amener des gens sur scène, c'est politique. Évidemment que c'est politique, parce qu'ils vont raconter leur vie, ils vont raconter... Même dans ta voix, dans ton travail vocal, il faut que ce soit, un engagement.
On pourrait imaginer Alexia, je ne sais pas, une émission de radio, ou une rencontre. On pourrait imaginer qu'on se soit rencontré lors d'un proctus, et un jour on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une rencontre autour de l'orgue, autour... qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ?
Il faut commencer, trouver son axe de créativité, en fait. Il faut commencer, de quelle manière que ce soit, mais il faut toujours commencer. Ne jamais se dire, c'est pas pour moi.
La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Ça a été important pour moi, la créativité, tu vois, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut donner l'énergie créative aux gens et l'envie d'appuyer sur le bouton, de se dire... Alors j'ai acheté un camion. Un camion s'appelait le Labo Roulotte, pour faire des ateliers parents-enfants. Donc je faisais des ateliers de marionnettes, de tout. J'ai fait des trucs, mais... Et j'allais avec mon camion, tu vois, dans les festivals, et les gens, les parents pouvaient venir là-dedans. On a fait de la fabrication de marionnettes, on a fait plein de choses. Tu vois. L'écriture, on a fait... voilà. Et il faut toujours... Évidemment, à un moment donné, on va rencontrer le sensible en nous. Et ce chemin-là, il est important, tu vois, de se dire oui, ça y est, je commence à découvrir quelque chose de moi-même, tu vois. Donc c'est comment faire émerger tout ça. C'est hyper important.
Qu'est-ce qu'on attend, oh oui, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire des crêpes ? La pâte est prête, c'est merveilleux. Il y a du jambon, du gruyère et des œufs. On va trouver une petite guinguette pour régaler les amoureux. Blé noir complète, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'on attend, Audi ? Qu'est-ce qu'on attend, oui ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?